Nassim, bienvenue. Bonjour. On est ravis avec les Gladiateurs Moudani, Laura Domange, Camille Lavard, Tanguy Bassureau.
Bonjour.
Et monsieur Daniel Morin pour accueillir Florence Foresti. L'excellente Florence Foresti pour une double actualité, aussi bien Désordre, la série qui démarre ce soir sur Canal, à raison de 2 épisodes par lundi, mais qui est peut-être déjà intégralement sur MyCanal, je sais pas, toi qui connais MyCanal.
J'ai regardé
ça
tout de suite.
Tu sais ça, toi.
J'ai regardé ça.
À chaque fois que je parle de... Tu me reprends,
je sais pas, je sais pas.
Et en intégralité sur MyCanal.
Ah, je parle comme ça.
Et oui, tu parles comme ça. Et puis il y a également
c'est
le...
C'est disponible sur MyCanal, c'est écrit.
Voilà. Mais tu crois déjà en intégralité ?
3 octobre.
Et il y a évidemment au Théâtre Marigny. Je sais même pas si on en parle, étant donné que c'est complet jusqu'au 31 décembre.
Il reste des places.
Mais non, non,
si,
c'est
si, complet. Si, si. Il reste des places à 15 euros, mais il y a bien marqué en dessous sans visibilité. C'est derrière les poteaux ou les colonnes.
Mais non.
Si.
Ça existe, hein?
Ah, bah ouais.
Mais c'est pour les gens qui aiment le texte.
Ouais, c'est un son sans lumière.
Voilà. D'accord, très bien. Ouais. Enfin, sinon, ça s'appelle quand même guichet fermé, quoi. C'est,
Oui, je suis pote, je suis pote, Nagui.
Voilà. Ouais. Et on verra si tu auras le courage de le refaire devant elle, cette vanne.
Bah oui.
Et puis ensuite, elle sera en tournée partout en France. Et puis, il y aura également d'autres dates à partir du 20 décembre 2023. C'est un an de tournée, on en parle avec elle. Je ne sais pas, il y a 2 émissions en même temps.
Non, pardon, j'ai insulté Daniel.
Je me fais insulter par toi.
C'est de l'émission.
Voilà, c'est le concept.
Devinez qui chante ça.
Leïla.
Oui.
Sabrina. Déjà. Mais elle est
J'avais travaillé moi aussi.
En plus, c'était mon idole pendant mon adolescence. Je suis dégoûté de ne pas l'avoir trouvée.
Ça m'étonne, pourquoi?
J'ai adoré la piscine, la natation, tout ça. Ça m'a vraiment tout de suite très, très intéressé. Quand j'y suis arrivé, il n'y avait que des vues à bonnet de bain.
Et là, qui chante ça?
Leïla, Estelle, American Boy.
Mais c'est pas possible.
Ok, d'accord, elle est
incroyable.
Réponse.
Elle est forte.
Incroyable.
Moi, ça, c'est des trucs de danse.
Ouais.
Il n'y a pas une soirée sans ça, quand même.
Oui, mais la première
alors, c'est une soirée ratée.
Ah, voilà. Moi qui aime la danse, je peux vous dire que. Non, je vois rien sur Florence Foresti tous les soirs.
Qui chante ça?
Tanguy, Jacques Dutronc, les Playboys.
Voilà.
Voilà, quand il y a un truc de vieux, c'est
pas du tout. Oui, mais il y a Boy dedans.
Hein. Oh oui.
C'est ça le thème.
Ah.
J'ai un piège à fille. Un piège.
Ah ouais, t'as le.
Un sous-sous extra qui fait crack-boom.
Ouais.
Qui chante ça?
Tanguy. The Cure.
Ah ouais.
Julie.
Boys Don't Cry. Bravo.
En plus, moi, je me disais, c'est sûr, elle va passer. Je l'attendais. Aucun réflexe, quoi.
Globalement, vous analysez votre problème comment
Moi, c'est un problème de réflexe, je crois, vraiment.
De rapidité.
Je ne sais plus comment je m'appelle au moment où il faut faire... Je fais... C'est mon nouveau prénom. Exactement. Moi, je n'ai pas révisé le bon thème. Tu as fait Boys, et moi, je vais réviser le thème Désordre.
D'accord. Il y a peu de chansons avec Désordre.
Très, très peu, je vous confirme.
Qui chante ça?
C'est là, YouTube. Non, pas du tout.
Daniel.
Tommy Swift.
Non. C'est quoi ce truc-là?
C'est les Beatles?
Non,
c'est
Tanguy, les Birds.
C'est de la génération, mais
Beach Boys.
C'est le son, en tout cas.
Ah oui, les Beach Boys, ça ressemble.
I'm a boy, c'est le titre.
Les Monkees?
Non.
Les Who?
Oui.
Mais oui, mais vous avez fait le signe du moulinet avec la guitare.
Pete Townshend.
Bah oui.
Évidemment.
C'est trop facile, vous m'avez aidé. Je ne veux pas ce point, je ne le veux pas.
Qui chante ça?
Leïla.
Oui.
Tanguy.
Oh non.
Les Black Keys.
C'est pas possible.
Oui, Johnny Boy.
Faut réagir, Leïla.
Johnny Boy.
Je sais qu'on est lundi, mais on se réveille, Leïla, on se réveille. On est lundi.
Il est en feu.
Et là, tu veux le point ou pas?
Je suis
non.
Un garçon
non plus.
Seul.
Si, allez, celui-là.
Un garçon seul.
Ah, tu connais la VF, toi?
Eh bien, sûr.
Qui chante ça? Et c'est le... Et c'est le bonus.
Camille, Lady Gaga. Ouais.
J'ai le droit de jouer?
Non.
Ah ouais.
Non, mais alors c'est un point pour Florence.
Non, c'est Camille là-bas qui a gagné. Bah, elle a dit Camille.
J'ai été aidée.
Bravo Camille.
Non, attends, si je dis pas qu'elle a gagné, après on va dire ouais, t'es un petit Marseillais, comme pas lui.
C'est du racisme pur.
Allez, ouais, Florence Foresti.
France Inter, la bande originale. Avec Nagui et Leïla Kaddour.
Bonjour.
Bonjour, ça va?
Ouais.
DJ Nagui.
Mais attends, mais tellement ça met le feu, évidemment, l'entrée sur scène avec ce titre. Il y a un gros débat entre nous avec guichet fermé ou pas guichet fermé au Théâtre Marigny.
Ah, j'ai entendu.
Derrière les poteaux ou pas derrière les poteaux?
Alors, c'est malheureusement pas moi qui ai designé le théâtre. Je suis confuse qu'il y ait des places. Mais tu sais, dans beaucoup d'anciens, de vieux théâtres, tu as, au Châtelet, c'était pire, je me souviens quand j'ai joué au Châtelet. Parce qu'à l'époque, les gens payaient pour entendre les comédies musicales, les orchestres. Bon, là, c'est, j'imagine. Enfin, je conseille pas.
Non, mais moi, pour ceux qui sont fans absolus et
si
qui
on penche,
place.
Si on penche un peu la tête, on vous voit quand même.
Non, je conseille pas.
Mais t'emmerdes le gars qui est derrière.
Non, c'est invisibilité totale. Donc, alors, juridiquement, on peut pas dire complet, je crois. Enfin, il y a une histoire comme ça, vous verrez avec mes avocats.
Ça commence mal à cause
mais
de ça.
Non, c'est un truc que je conseille pas, moi, évidemment. Mais ça, bon, ça, je n'y peux rien.
Double actualité pour Florence Foresti. Il y a la série Désordre, il y a le spectacle sur scène, et il y a surtout des humoristes courageuses et courageux qui ont accepté d'être présents dans cette émission. Voici Laura Demange. Laura Demange, avez-vous compris pourquoi Florence Foresti était notre invitée?
Florence Foresti, connais pas. Cette semaine, parlons de ce sujet fédérateur qui nous réjouit et sur lequel on a envie d'en apprendre plus, l'acrobranche.
Non, Laura, revenez à l'invité, s'il vous plaît.
Oui, d'accord, Nagui. Alors, Florence Foresti, j'ai fait mon travail. Je me suis renseignée et apparemment, vous seriez humoriste.
Tout à fait.
Très drôle. Alors, l'acrobranche, on est toujours à son avantage à l'acrobranche parce qu'on a un baudrier. Bon, écoutez, Nagui, à vrai dire, je comprends pas pourquoi on reçoit Florence Foresti. Je veux dire, c'est pas possible. Il va falloir m'expliquer. Je veux dire, il y a assez de talent dans cette émission. Je ne dis pas ça que pour moi. Hein. Je dis ça aussi pour... Vous m'avez compris. Donc, vous m'avez dit d'être plus à l'aise dans l'émission il y a quelques temps, Nagui, de paraître moins stressée.
C'est
et
vrai.
Pour me mettre en confiance, vous me demandez de chroniquer Florence Foresti. Pardonnez-moi, mais j'ai comme l'impression que vous essayez de me chroniquer, mais sans le croc.
Mais ça va pas.
Mais je suis détendue là. Parce que soyons honnêtes, Madame Foresti, vous me faites peur. Pas physiquement, hein. Je vous croise dans la rue, je change pas de trottoir. Limite, je vous bouscule et je m'excuse pas. Bah quand même, je suis parisienne, c'est important les traditions. Vous m'impressionnez. Vous êtes ce genre de personne très charismatique avec qui on passe une soirée géniale au théâtre. Puis il faut attendre au moins un an avant d'apprendre qu'on peut enfin la revoir ailleurs. En fait, vous êtes un peu mon père. À cette différence près que si vous avez trompé ma mère, vous l'avez fait très discrètement. Je n'ai pas encore assisté à votre spectacle, mais j'ai vu votre affiche. Et oui, j'appelle ça bosser. Vous apparaissez dévêtu avec le titre Boys, 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 en hommage à la chanson de Sabrina, comme on l'a dit tout à l'heure.
Voilà. S'en lasse pas.
Et je tiens à dire que j'ai essayé de faire la même affiche, mais que ça n'a pas donné pareil. Ça faisait plutôt penser au tube d'Amy Winehouse, No No No. J'ai vu votre première série Désordre et je me suis dit clairement, beau taf, elle va aller loin la petite jeune. Alors je cite quelques thèmes abordés dans cette série comique. Crise d'angoisse, attaque de panique, dépression, hilarant. Je me suis reconnue dans tout, sauf dans la taille de l'appart. J'ai d'ailleurs appris ce chiffre étonnant. En France, une personne sur cinq souffre de dépression. Ce à quoi je me suis dit, c'est tout. Je veux dire, impossible, rien qu'autour de la table, on fait exploser la stat. Et puis, regardez nos chanteurs quand même. Je veux dire, l'homme pâle, grand corps malade. À part Michel Fugain, tout le monde est en dep. Et encore, fait comme l'oiseau, on peut clairement y voir un appel à la défenestration. Je pense qu'ils se sont plantés. Pour moi, c'est une personne sur cinq n'est pas dépressive. Sinon, croyez-moi. Enfin non, c'est pas ça. Moi, qu'on se le dise, j'ai 43 ans de thérapie, alors que je n'ai que 35 ans. J'ai passé plus de temps avec un psy qu'avec mon père. C'est mon psy qui m'a appris à me raser. Donc, très clairement. Désordre, c'est un genre de Sex and the City à la française. Et il y a une scène très drôle dans laquelle, vous dites que c'est impossible d'adapter Sex and the City en français. Mm-hmm. Et je suis d'accord. C'est vrai, c'est compliqué d'adapter les séries américaines en France, quelle que soit la série. Friends, par exemple, ça serait quoi? Copain? C'est l'histoire de Rachel, Phoebe et Monique qui vivent en face de l'appart de Ross, Jojo et Crêpe. Miss Maisel, ça donnerait quoi? Jacqueline Maillan? Je veux dire, c'est claqué. Mais ce qui est rassurant, c'est que l'inverse, c'est pas possible non plus. Je pense que personne aux États-Unis n'a envie de voir More Beautiful the Life. I was at the Mistral. Très difficile de parler anglais avec un accent marseillais. Camille, tu nous feras un tuto après. I was at the Mistral. Mistral and the Less Cheap, traduction de peu cher, vous l'avez
dit. Peu cher.
I took a pastaga, Paris, Paris, on tankule. Ça marche pas. Voilà. Ou même, imaginez, caméra mocha latte. Ça serait nul. Il n'y aura aucune scène devant la machine à café parce que les employés aux États-Unis, guess what, ils bossent. Hashtag humour de droite. Pardonnez-moi, c'était pour faire et pour élargir un petit peu l'audience. Voilà, bon, écoutez, 4 minutes déjà. Et ben, on l'a fait cette chronique, Lolo. Hein, même si c'était vertigineux, que j'avais peur de me lancer, comme quoi, c'est vraiment génial l'acrobranche.
Ah. Merci.
Pardon, mange les vendredis et samedi à la nouvelle scène, c'est à Paris.
Bravo.
Et il y a des places avec visibilité ou...
Oui, quelques-unes. Je crois qu'il en reste la totalité.
Ceux qui ne peuvent pas aller voir Florence.
Exactement. Voilà. Exactement.
Alors, cette série, finalement, est diffusée en même temps que vous remontez sur scène, alors que la série nous replonge dans la création du spectacle précédent qui était épilogue, c'est ça, hein,
le planning a été un peu... bousculé par...
Covid oblige.
Il paraît, voilà. Entre autres...
Mais bon, on est un peu dans la même situation, c'est-à-dire celle du doute, de la dépression, de la création et de l'autodérision.
Oui. Voilà. Merci. Okay. Au revoir et bonne journée. Oui, j'ai choisi de mettre mon personnage, bon c'est une autofiction évidemment où je joue mon propre rôle, de mettre mon personnage à un moment où elle est pas en spectacle parce que c'est les moments où on est les plus vulnérables évidemment, et donc ça me permettait de traiter le sujet des désordres anxieux, ouais.
Alors les sujets de la vie quotidienne, du wifi qui ne marche pas ou qui ne synchronise pas, de la femme de ménage ou je sais pas quel est son rôle de gouvernante qui
c'est la patronne, hein. C'est clairement la patronne, la femme de ménage chez moi c'est la boss,
qui n'a pas son permis de séjour, il faut l'aider à avoir son permis de séjour, c'est-à-dire et puis la drague, le regard des gars quand justement Laura a évoqué Sex and the City, il y a vraiment cette scène qui est à pleurer de rire où avec les quatre copines elles sont à la terrasse d'un café et elles refont des dialogues de Sex and the City
mais en français. Je voulais me débarrasser de cette référence en fait, parce que dès qu'on est une femme et dès qu'on fait une série, on dit ah Sex and the City. Et au contraire, je voulais faire un pied de nez justement, dire non, surtout pas, c'est pas l'idée, parce que de toute façon, une série française ne sera jamais une série américaine. En effet, comme tu l'as très bien dit, Laura. Donc moi, pour essayer de me défaire de cette référence, j'en ai fait une parodie tout de suite dans le premier épisode pour me débarrasser de ça. Mais bon, au final, tout le monde dit Sex and the City. J'ai mal joué mon truc parce qu'au final, je souffre quand même de la comparaison. Mais je voulais pas souffrir la comparaison parce qu'évidemment on est très différents culturellement et Dieu merci, les Français et les Américains, et voilà, oui j'en ai profité pour faire une petite parodie j'avais écrit il y a une dizaine d'années déjà.
Donc il y avait eu l'envie quand même de faire une parodie de
Oui, parce que ça m'amuse toujours, parce qu'on trouve toujours que les Américains sont bourrés de charme, que c'est génial, que tout est super, parce qu'il y a une paire de stilettos et oh my god. Mais en fait, quand tu le fais en français, c'est quatre vieilles qui parlent de cul, quoi. Voilà, donc j'avais envie de montrer ça.
Il n'y a pas Mr. Big, non, là, il n'est pas là. Mais il y a le beau gosse qui vend des chaussures, manque de bol, que pour hommes, qui est présent dans la série. Il y a des cours de yoga, alors là, qui vont faire fantasmer les plus réfractaires au yoga. Là aussi, tout est extrêmement drôle. Ce qui est drôle surtout, c'est que vous prenez des moments de la vie quotidienne pour aller chercher le petit détail qui va faire que tout le château...
C'est bien observé, c'est pour ça. Parce que si c'est pas bien observé, s'il n'y a pas une qualité d'observation, la parodie tombe à l'eau complètement.
Oui, et puis c'est vraiment le prolongement de mes spectacles. Enfin, j'espère. J'ai essayé de vraiment garder le personnage que j'ai sur scène, mais d'englober plus de thèmes, évidemment, des thèmes un peu plus sérieux parfois. mais très, très, très inspiré de faits réels. Ouais. Parce que je trouve toujours que la vie réelle est bourrée de comédie.
C'est-à-dire, vous avez une agente, manageuse qui vous pousse à faire des publicités.
Non, alors là, j'avoue que j'ai un peu tricoté.
Pour des produits.
J'ai un peu tricoté. Le seul sujet sur lequel j'ai beaucoup tricoté, c'est sur mes copines. Je les ai complètement inventées. Elles n'existent pas dans ma vraie vie. Ces copines-là, cet agent-là. Non, je les ai totalement inventées. C'est des espèces de maxi-têtes de toutes mes copines, en fait. Voilà. J'ai recomposé des copines idéales.
La ref, maxi-tête.
Maxi-tête. Wow. Je suis plus toute jeune, Nagui.
Non, j'aime beaucoup cette ref.
Faut connaître.
Et puis, vous jouez aussi avec votre notoriété, travailler avec le regard des autres, le regard du taxi, le regard dans la rue, les selfies qu'on vous demande, même quand on n'en a pas envie, et l'ascenseur, c'est-à-dire ce piège où on est enfermé avec son voisin. Alors, c'est toujours le même qui prend l'ascenseur
c'est au toujours
même
le
moment,
même.
C'est
récurrent, non, oui, on avait envie de. Oui, c'était une manière d'incarner finalement ce qu'il y a de plus emmerdant dans la notoriété, parce qu'il y a des choses emmerdantes, mais moi j'ai fini par les accepter et trouver ça plutôt chouette d'ailleurs. En vieillissant, mais oui, on a choisi de l'incarner par un seul et même personnage, qui est joué par Christophe Canard, qui est un super comédien, comme super. Tous les comédiens qui m'entourent, je trouve, dans cette série.
Ah ouais, il y a un casse de dingue.
Le casse est fou. Ouais. Enfin, je suis vraiment très reconnaissante d'avoir pu travailler avec des gens pareils, avec des talents pareils. Et donc, ce voisin omniprésent, suffocant, représente un peu tout le pire de ce qu'on peut vivre.
C'est ça. C'est-à-dire que ça commence gentiment par un selfie ou une dédicace, et on se demande jusqu'où il va aller. Est-ce qu'il va oser demander de venir à un mariage? Est-ce qu'il va oser demander carrément à venir faire la bouffe? Enfin, ça va extrêmement, extrêmement loin, mais comme avec aussi un sentiment, je dis pas de vécu, mais pas loin. La frontière est très fine entre la réalité de ce que vous avez déjà pu vivre et la fiction.
Ah oui, complètement. Dans cette série, même si elle est très écrite et que c'est vraiment une fiction, hein, c'est pas du tout un mockumentary, comme ils disent, ni un documentaire. On est toujours sur le fil entre le réel et la fiction, oui, c'est vrai.
Y compris le processus de fabrication d'un spectacle, c'est vraiment aussi fatigant, c'est vraiment aussi difficile, astreignant.
Souvent, je me dis, il manquerait plus que ce soit facile. Quand j'en chie pour aller sur scène, parce que j'en chie toujours.
Mais on s'en rend pas compte, nous, parce que quand on voit sur scène, on se dit que tout est simple.
Voilà. C'est un métier ultra dur, mais Dieu merci. Des fois, je me dis, mais putain. Enfin, non, c'est mon co-auteur un jour qui m'a dit ça, Pascal, qui est d'ailleurs incarné dans la série par Clément Bresson, un excellent comédien aussi. Il me dit souvent, mais il manquerait plus que ce soit facile, Florence. Et c'est vrai, enfin, je veux dire, le prix à payer, il est cher, mais c'est normal, parce qu'on en a un métier de rêve, on reçoit un amour incroyable.
C'est
donc,
quoi le prix à payer?
Mais le prix à payer, c'est un. C'est, d'abord, l'exposition, le simple fait de monter sur scène, de toute façon, de s'exposer comme ça aux critiques, aux regards des gens, c'est horrible, c'est une mise à nu terrible.
C'est violent.
Oui, et puis c'est les sacrifices humains, familiaux, enfin voilà, je ne vais pas m'épancher.
Non, mais c'est pas s'épancher, mais c'est comprendre. Moi, je suis venue vous voir sur scène et j'ai vu de la joie. La joie que vous suscitez quand vous apparaissez, le public complètement conquis, fou de joie de vous voir. Je vous vois sur scène déambuler, vous jouez. Donc, on est dans un truc d'enfance, quoi. On est dans un truc tellement joyeux. Mais et c'est vrai qu'on ne peut pas envisager sans se plaindre. Ce qui est le plus dur, vous avez évoqué la notoriété, se mettre à nu, monter sur scène, prendre le risque que les gens n'aiment pas. Et en même temps, c'est prendre le risque que les gens aiment. Mais au fond, c'est quoi d'autre aussi, cette difficulté?
Bah non, mais j'ai pas du tout envie de me pencher là-dessus, parce que les gens ne doivent pas savoir ça. Les gens, ils s'en foutent, ils ont des vies difficiles. On va pas leur dire qu'en plus, nous, c'est difficile. Vous voyez ce que je veux dire?
Non, mais c'est la base de la série. Le doute, la dépression, la peur.
Oui, mais ça, c'est pas.
La peur de ne plus créer, de ne pas avoir la bonne vanne.
C'est encore autre chose.
Non, mais ça, d'accord. Mais le trouble anxieux, c'est pas du tout lié à mon métier. D'ailleurs, je connais énormément de gens qui souffrent d'attaques de panique, qui sont absolument pas comédiens, qui sont des mères de famille, qui sont des gens qui travaillent dans des bureaux. Et c'est un mal qui est très, très, très répandu, parce que c'est un mal de société occidentale bourgeoise. Ouais. Hein, faut pas avoir de soucis pour s'en créer comme ça. Donc c'est le mal du siècle et c'est très répandu et c'est absolument pas lié, pas du tout, puisque moi j'ai subi des attaques de panique depuis que je suis toute petite, donc c'est pas du tout dû à mon métier. Donc
ça vient pas arranger les choses non plus.
Non, ça vient pas arranger les choses. Bah, ça vient me sauver quand même, parce que la scène me sauve de cette anxiété de vivre. Donc non, c'est plutôt.
Et votre travail avec votre thérapie, co-auteur, c'est comme dans la série, c'est-à-dire c'est une espèce de ping-pong, de punching ball, avec chacun essaye une vanne sur l'autre et voir si ça fonctionne.
Non, là on a un peu rendu ça accessible, parce que c'est pareil, une séance d'écriture, c'est pas forcément très drôle à regarder en fait. Hein. C'est vrai que tout ce qui est coulisses n'est pas très drôle, moi. C'est pour ça que je me suis plutôt épanchée sur la vie de mère de famille en garde alternée, parce que ça c'est drôle. La vie de femme c'est drôle. La vie d'homme aussi, bien sûr, mais la vie de femme encore plus, parce que c'est vrai qu'on fait plus de choses, désolé. Donc quand on s'occupe et de la vie privée et de la vie publique, enfin, j'ai trouvé. Et puis la vie de célibataire, c'est drôle. C'est pour ça que mon personnage est célibataire dans la série aussi, parce que la séduction, ça a quelque chose de drôlement misérable et misérablement drôle. Enfin, voilà. Donc c'est plutôt ça qui m'intéresse, plutôt que montrer les coulisses de ma vie d'artiste. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai choisi de pas montrer tant de choses liées au show business. Enfin, tu vois, il n'y a pas beaucoup de situations.
Non, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir comment mais ça, c'est valable aussi pour un chanteur, pour un romancier, pour un humoriste. C'est-à-dire que le processus de création, d'abord, il n'est sûrement pas le même pour tous les musiciens,
les artistes,
pour tous les humoristes et pour tous les romanciers. Je repense à Guillaume Musso qui a un bureau en dehors de chez lui pour aller symboliquement au bureau.
J'adore. Mais ça, c'est mon rêve. Et je voudrais être Amélie Nothomb, me lever à 5h ou 4h du mat et écrire comme ça. Mais moi, pas
et
du
boire
tout.
Du sang.
Moi, j'écris comme on écrit comme on peut. Enfin, j'imagine que c'est pareil pour vous autour de la table. Voilà, dès qu'on observe quelque chose, on se dit putain, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en faire quelque chose de drôle? C'est tout, voilà.
Donc c'est obsédant tout le temps, en fait.
Oui, c'est obsédant, oui. Oui,
tout
oui.
le temps.
Oui, oui. Et puis parfois, il y a des thèmes qui s'imposent à vous. Par exemple, Boys, 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 ce spectacle-là, le thème s'est imposé. Oui. Voilà. On aurait dit que, voilà, c'était une évidence. J'ai dit, ce spectacle, ça sera les hommes. Et avant même que j'écrive une ligne, je savais que ce spectacle, ce serait les hommes.
Une déclaration d'amour aux hommes.
Déclaration d'amour, mais pas que. Pas mais que. Enfin, surtout que ce serait le fil conducteur du show.
Ouais, ouais.
Le masculin.
Avec aussi toujours cette patte qui fait votre succès et qu'on adore, c'est cette ironie, cette autodérision. Avec
vous ne faites pas de bien, tout le temps.
À pas vous comparer à un avion de chasse, mais plutôt à un Canadair, qui fait que la salle était, mais la salle était complètement. De toute façon, la salle est hilare du début à la fin. Florence Foresti, ça, vous devez le percevoir, ce retour sur scène là, de voir les gens, mais si heureux.
Non, mais ils sont trop sympas. Ils sont trop sympas. Non, le théâtre est super. Ouais, ouais. J'ai fait qu'une semaine pour l'instant, hein, mais vraiment, ouais, c'était des belles retrouvailles. Ouais, ouais.
Il faut encourager les personnes qui vont au spectacle. C'est pas le problème d'avoir des places avec visibilité ou sans visibilité, mais avec l'oreille. Il faut surtout entendre aussi ce qui se dit, parce que les rires viennent couvrir. Alors là, il y a un problème de musicalité, de tempo aussi quand on est sur scène, c'est-à-dire savoir être dans le rythme du rire d'une salle. J'imagine que deux soirs ne se
le les
deux
peut soirs ne changer en pas. Fonction des réactions.
On prend plus de temps sur une vanne que sur une autre.
Oui, mais c'est vrai que c'est assez. Je l'ai beaucoup dit. On le dit beaucoup, mais il y a un tempo, ouais. Mmh. Et c'est vrai que si tu prends ton souffle au même moment, la vanne peut être ratée, quoi. C'est complètement con, mais parfois un éternuement ou le...
Quelqu'un qui tousse au moment où vous donnez...
Oui, ou une inspiration à un mauvais moment et ta vanne tombe à l'eau. Mais bon, c'est normal.
Non,
c'est...
mais je veux dire, quelqu'un dans la salle qui tousse au moment où vous dites le mot...
On la bat, en général. Avec moi. Enfin, moi, j'ai un gars de sécu qui a le droit de tuer une personne par jour. C'est celui qui tousse.
C'est un petit quota, ça.
Ouais, mais ça
va. Ah, on est très nombreux à Paris.
Il était en invisibilité, donc voilà.
Oui, il était protégé par le poteau. Voilà. Donc on a tiré dessus, ça marche pas. C'est à voir sur scène, évidemment, Florence Foresti, à voir sur Canal avec ces désordres et même la manière dont le logo est fait. Est-ce que c'est des plus loin ordre au pluriel ou est-ce que c'est truqué?
C'était désordre anxieux. J'avais envie de. Je trouve ça hyper beau ce mot. Alors, évidemment, toujours plus bon en américain. Anxiety disorder. Voilà, pourquoi les séries américaines sont mieux, tout simplement. Mais c'est un joli mot, désordre. Je trouve que j'avais envie, comme j'avais envie de parler de désordre anxieux et du désordre qui peut régner dans la vie d'une femme, ça allait très bien, ça collait très bien.
Et le travail d'écriture d'une série est le même que celui d'un spectacle sur scène ou c'est plus proche quand même d'un film et.
C'est deux films, trois films. C'est deux films, là, en l'occurrence, la longueur. C'est très dur, c'est très laborieux, mais pareil, il manquerait plus que ce soit facile. Et c'est très différent, non, ça n'a rien à voir, puis c'est très collégial, et puis parce que j'étais très entourée aussi. C'est très différent, mais c'est un grand, grand plaisir aussi, grand plaisir à écrire et à réaliser.
Et à réaliser, c'est ça, parce qu'il faut préciser que vous avez réalisé cette série, vous l'avez co-signée avec Pascal Seriès, avec un casting autour de vous, Béatrice Facker, on prononce
Faquer. Je sais pas, faudrait lui demander à elle, mais moi je dis Facker.
Facker, hein, d'accord. Laetitia Verken, Anouk Ferral, Clément Bresson, Éric Bougnon, Lucie Ordenation.
Lucie Ordenation, hein, qui est ma femme de ménage, qui joue le rôle de ma femme de ménage.
Très bien. C'est votre vrai.
C'est ma vraie. Alors, faut pas écorcher son nom, sinon elle va pas faire le ménage ce soir à la maison. Elle est géniale, ouais. Elle est géniale.
Luc Anthony, Baptiste Le Caplin. On dit Le Caplin ou Le Caplin?
Le Caplin.
Audrey Lamy, mais qui vous déteste tellement dans la série, c'est à pleurer de rire.
Oh, regarde.
Oh,
elle a pas coupé son téléphone, la méchante. Méchante, Florence.
C'est peut-être Audrey Lamy qui appelle.
Non, pas du tout.
Pour vous troubler. Pour vous troubler.
C'est CPF, c'est vrai. Ce putain de 0480, là, que je connais pas.
pull, voilà.
Ça va être votre avocat, c'est pour moi.
Ah ouais, tiens, c'est pour Morin, démerdez-vous avec lui.
Non mais la méchante Audrey Lamy.
Oui, alors Audrey Lamy, c'est une comédienne que j'aime énormément depuis longtemps.
J'aime
et
pas.
On cherchait une rivale. Comment ?
J'ai cru que j'aime pas.
Ouais, je déteste. Donc, non, que j'admire énormément son sens de la comédie. Et j'avais besoin d'une rivale dans la série. On trouvait ça
tellement
marrant
drôle.
De me mettre en compétition avec quelqu'un d'autre. Et c'était le personnage idéal et elle a accepté. Et c'est un grand cadeau qu'elle m'a fait là.
Oui, et puis il y a une actrice, donc celle qui fait du yoga, qui est juste une espèce d'avion.
Voilà. Ouais. L'avion de chasse, il y a Canadair. Voilà. Alors il y a l'avion Yousra, qui est une danseuse du Crazy Horse, figurez-vous, que j'avais repérée sur Instagram. Donc parfois c'est pas mal, Instagram. parfois ça sert à repérer des gens. Et...
Mais on ne sait pas comment elle joue la comédie, et elle joue extrêmement bien.
Elle joue super bien, elle est belle, comme on dirait un petit chat, elle est trop belle. Et même pendant le tournage, j'avais vraiment pas besoin de jouer la fille jalouse, quoi, parce qu'elle était là devant moi. Avec toute cette beauté et cette gentillesse. Et voilà, et elle a accepté aussi d'être avec nous.
Et elle a beaucoup, merveille. On ne va rien dévoiler évidemment de ce qui se passe dans la série, mais on va dire qu'elle a aussi une dose d'autodérision dans son personnage, ce qui ne vient que rajouter
à ses
qualités. Exactement.
Oh, salope. Pour plaire. Oh,
Désordre, c'est sur Canal ce soir. 2 épisodes par lundi, tous les lundis.
Et ce n'est pas disponible tout entier, là. Vous posiez la question, il faut attendre. Ouais, c'est ça. Ouais.
Ah, d'accord, ok.
Ouais.
Donc c'est à suivre aussi sur MyCanal, en replay on va dire, mais pas en intégralité.
Ouais.
Très bien.
Et le premier épisode est en clair, wouh !
Gratos !
Trop sympa.
Il faut en profiter.
Oui.
Je pense que tous les gens de TF1 vont regarder. Ouais, je sais.
On t'a entendu, Nagui.
Voici Camille Lavave.
Bonjour.
Hello.
Bonjour
Camille. Bonjour madame.
Alors, ce week-end, j'ai hésité entre écrire une chronique sur l'actualité brûlante ou me refaire l'intégrale de Sex and the City. Et finalement, après avoir terminé la saison 5, j'ai enchaîné avec la 6. Alors, je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais je resitue Sex and the City pour les personnes qui n'auraient pas regardé, genre les mecs pas déconstruits. Cette série, c'est l'histoire de Carrie Bradshaw, une journaliste trentenaire célibataire new-yorkaise dont la vie consiste à dater des hommes, débriefer le lendemain avec ses copines autour d'un brunch, puis en faire une chronique. C'est là que je me dis... Pourquoi me faire chier avec l'actualité brûlante ?
Bah oui.
Surtout que moi, cette série, il se trouve que c'est toute mon adolescence, en fait. Je me revois à 16 ans, rêvant d'être cette fille et me disant oh, « Mon Dieu, sur ma vie, je l'aime trop, Carrie !» Bon, vous l'aurez compris, je n'ai pas grandi à Saint-Germain-des-Prés. Quand je serai grande, je veux trop aller vivre dans la capitale et être comme elle. Or, j'ai un peu l'impression qu'elle m'a prise pour une bouffonne, Carrie. Parce que sa chronique, déjà, elle l'écrit dans son modeste appartement de célibataire qui contient une baignoire, un dressing et se situe en plein cœur de Manhattan.
Ouais.
Alors moi, j'ai essayé d'avoir sa vie, hein. Mais on peut dire que ça a foiré à 2-3 endroits, quoi. D'accord. Bon, alors, d'abord, il est temps de briser un tabou, hein. Abordons enfin ce sujet. Les apparts à Paris, gros. Oh, c'est quoi le délire? Là-bas, pour les loyers, ils comptent en année de chien ou c'est comment? Oh, tu restes un mois, tu en payes 7, frère. Ensuite, ils te demandent une caution de 30 mois de loyer, 8 ans de fiche de paye, des garants sur 6 générations, et ça, c'est juste pour pouvoir consulter l'annonce, gros. L'autre fada dans les étoiles, là, Thomas Pesquet, il a dit, oh, il y a 2 trucs qu'on voit depuis l'espace. La grande muraille et la queue pour visiter un 12 mètres carrés à Paris. Et donc après, si tu as réussi à hypothéquer le rein à ta grand-mère, tu as l'appart, oh, sans déconner. Oh. Donc autant vous dire qu'on ne vit pas dans le même décor, hein, Carrie et moi. Ensuite, elle, quand elle n'a pas d'inspi, elle va s'aérer l'esprit en allant s'acheter une paire de pompes Manolo Blahnik à 900 $. Alors, je rappelle que Carrie est pigiste.
Ouais.
Elle gagne sa vie avec une chronique par semaine. Moi, j'ai mis 5 chroniques pour m'acheter un lacet, quoi. Et puis surtout, moi, si j'ai pas d'inspi, c'est pas du shopping de chaussures que je vais faire, mais du shopping d'anxiolytique. Et quand bien même j'ai envie de m'acheter une paire de pompes, eh ben, je vais sur Vinted, gros. Sauf que là, tu as un mec de 75 ans qui vient me brancher pour savoir si j'ai pas des culottes usagées à vendre, frère. Ensuite, pour l'histoire du brunch entre copines, pareil, j'ai essayé, hein, mais sur ma vie, vos cafés, là. Oh, vous nous rongez. Toi, tu veux juste un expresso. Ils sont là, ils te mettent du lait d'amande, lait d'avoine, je sais pas quoi, les deux foins. Oh, c'est quoi? Bientôt, ils vont nous servir du lait maternel ou c'est comment? Bon, après, côté sentimental, pareil, j'ai voulu vivre le conte de fées que Carrie m'a vendu, à savoir une relation romantico-passionnelle avec un homme nommé Mr. Big, qui un jour la désire, le lendemain la rejette, et ce, pendant 6 saisons. Carrie fait donc l'apologie des relations toxiques. Nickel! À un moment, elle sort de cette relation archi-nocive et rencontre un homme stable avec qui elle fait des week-ends à la campagne et des poulets rôtis, et avec qui elle s'ennuie. Résultat, elle le quitte et retourne avec Big. Moi, encore une fois, je me suis calquée sur elle. J'ai cru que c'était ça, l'amour. Gros, j'ai essayé tes relations de toxico, là. Mais frère, ça m'a déglingué sa grand-mère. Oh, sans déconner. Oh, qu'est-ce que t'as, cousine? Tu pouvais pas faire l'apologie du poulet rôti? C'était quoi le souci avec la volaille, en fait? Ton daron, c'est Hugo Clément ou c'est comment? Et puis, Carrie est entourée de gens au métier clinquant qui bossent dans la mode, les médias, les relations publiques. Je me suis dit, ben, moi aussi, à Paris, je vais rencontrer des gens intéressants avec des métiers fascinants. Mais gros, en vrai, les gens à Paris, c'est quoi les métiers qu'ils font? Oh frère, tu soulèves une pierre, tu as 18 naturopathes, hypnotiseurs, coach mental, DA designer, caviste en biodynamie, je sais pas quoi, sa grammaire qui apparaît, frère. Oh, à un moment donné, j'ai envie de dire qui travaille au Spar? C'est qui fait la caisse à Intermarché? Ah non, ils m'ont fatigué, gros. Et toi aussi, tu m'as fatigué, Carrie. Alors la prochaine fois, je tenterai peut-être de vous parler de l'actualité brûlante.
Merci.
Tu vois, un Sex and the City à Marseille, ça serait bien.
Original.
Ça fait envie.
Même un petit bout du générique de Sex and the City discret.
Non, mais Sex and the City à Marseille, c'est une belle idée. Bah, tu m'as donné envie.
Ah, bah, avec plaisir.
Et si on a envie de la voir, Camille, c'est le mardi au point virgule à Paris ou le 15 octobre au Spotlight à Lille.
Merci.
Et la musique dans Désordre, mais c'est tellement. Il y a beaucoup de musique. Something's got a hold on me, yeah. Mais pas n'importe comment, en playback.
Ah, mais faut pas le dire.
Pourquoi? Oh, ça va.
C'est pas grave.
C'était quoi le premier titre? C'était quoi le premier titre?
Justin Brown.
J'ai fait diversion.
Non, parce que c'est. Moi, je trouve que c'est un véritable effet.
Oui.
On peut penser à Alain René, on connaît la chanson. On peut penser à ce genre de situation où le texte, et vous ne choisissez pas les morceaux. Alors oui, ils sont choisis pour leur musicalité, leur ambiance, leur connaissance, mais le texte surtout. C'est-à-dire que
ils sont choisis plutôt pour leur texte et pour leur, justement, leur drôlerie à être lip-syncé. Voilà.
C'est ça.
Et ces chansons qui démarrent a cappella, comme ça, dont on ne sait pas si c'est dans la fiction ou si c'est la chanson.
Ça marche tellement bien.
Ouais, c'est trop marrant. Mais la musique pour moi est très très importante dans les fictions, c'est 50% de l'émotion qui est amenée par l'image, elle l'est par le son finalement. Oui. Et les musiques, c'était important pour moi qu'elles soient à la hauteur. Et celle-là, surtout.
Ouais, ça, c'est l'hymne des copines. C'est ça,
Écoute, cette chanson, je m'en lasse pas. Et pourtant, j'ai fait le montage et je peux te dire que je l'ai écoutée un bon milliard de fois, mais je l'aime.
On se voit bien avec des boucles d'oreilles fluo.
Ouais. Sauf que là, le texte, c'est « on n'a pas besoin d'enlever nos vêtements ».
Eh ben oui, mais écoute, je l'ai choisi aussi pour ça, parce qu'on voit ces quatre copines qui s'amusent sans hommes, donc « we don't have to take our clothes off », et qui, au contraire, en mettent des robes, enfin, je sais pas si tu te souviens, elles mettent des robes de mariée, et elles s'amusent entre elles. Et pour moi, ça avait du sens aussi, de dire « we don't have to take our clothes off to have a good time or no », et on a juste besoin de boire un verre de vin et de…
Un verre
Jéroboam. Mais non, mais tu vois, c'est... Non, les paroles pour moi avaient beaucoup de sens aussi.
Ah non, mais je dis pas que ça en a pas.
On peut aussi s'amuser sans ça.
Mais c'est l'hymne des copines aussi. Ouais. Dès l'instant où il y a cette musique, ça devient le rassemblement des quatre. Mmh. Et leur force de se retrouver à quatre. Et puis il y a des moments d'émotion. She crossed herself. Lloyd Cole. As she put on her thing. Et Forest Fire, la musique dans la vie justement de Florence Foresti. Alors il n'y a pas que.
Ah bah non, s'éclate avec ça.
Ouais, j'adore. Il y a, et on va en parler tout de suite, en 90, il y a Jermaine Stewart donc qui revient.
Ah bah oui, j'ai fait exprès. Bah,
ça c'est réussi.
J'ai fait une bande originale de la série.
Mais est-ce que ce morceau-là, vous l'avez découvert en 90 ou pas, Jermaine Jack?
Je crois, ouais.
Bon, et en 80, année du bac.
Ouais, année du bac.
T'es
de
sûr,
l'école de cinéma, de Thalassa aussi.
Pff, tout le monde leur parle de ça.
Ouais, je sais. Alors, vous avez fait une école de cinéma et de vidéo à Lyon.
Oui, l'ARFIS.
Ouais. Et vous aviez un stage de fin d'année à faire, c'est ça?
Eh ben voilà, c'est tombé sur Thalassa.
Ah, pourquoi?
Mais j'en sais rien, moi. J'ai pas choisi.
Mais attendez.
Quand t'es stagiaire, tu crois que tu choisis avec. Alors moi, je voudrais aller chez Nagui, s'il vous plaît. Non, mais.
Mais c'est bien.
Thalassa, c'est pas mal déjà, quand même.
Oui.
Mais oui, c'est bien. Mais moi, je faisais des cafés à Thalassa.
Ah, ça c'est autre chose.
J'allais pas voir les poissons. Hein.
Et qu'est-ce que vous vouliez faire justement avec cette école de cinéma?
Écoute, clairement, je pense que, je me rêvais metteuse en scène, moi. Hein, je me rêvais réalisatrice. Mais en fait, je crois que je voulais être comédienne, mais je voulais pas me l'avouer parce que si tu veux, quand t'es en province, t'as pas de famille dans les métiers artistiques. On n'est pas en 2022 où il y a des comédie clubs à tous les coins de rue. On est à une époque où on peut pas dire je vais être humoriste, ça se dit pas. Tais-toi et va travailler.
Et encore plus difficile pour une fille.
Non, vraiment, je dirais pas ça. Moi, je dirais même qu'être une fille m'a aidée. Parce qu'il y avait pas beaucoup d'humoristes filles à l'époque, en tout cas dans les cafés-théâtres de Lyon notamment. Et du coup, tu sortais du lot. On disait, il faut mettre une fille, on va mettre Foresti. Tu vois ce que je veux dire? Il fallait, donc non, au contraire, parfois, c'est un avantage. Et quand d'être une minorité. Donc, il faut pas toujours se poser en victime. Au contraire, moi, ça m'a.
Ça, c'est dans le spectacle, ça.
Ouais, et, ça m'a aidée, au contraire.
Et quand est-ce que vous êtes autorisée à vous dire que vous allez devenir une comédienne?
Quand le public a dit ouais, on veut bien de toi. Là, je me suis dit ok, alors peut-être que.
C'est pas vous qui vous l'êtes dit, c'est quelqu'un qui vous a dit.
Non, okay. Moi, j'ai toujours considéré que. Il fallait pas que ce soit le public qui choisisse, mais que si on a sa place sur scène, on vous le fait savoir.
Dans quelques instants, on va recevoir David Gourion, psychiatre et auteur de Anti-stress, la méthode simple pour soigner l'anxiété, la déprime, les crises d'angoisse.
On va l'épouser, lui.
Mais on va continuer d'écouter les musiques de Florence Foresti en 2001.
Mais j'ai fait exprès. Oui.
Ah bon,
ça marche.
Ça fait beaucoup, hein.
Manquerait plus qu'elle soit drôle.
C'est Etta James.
Ouais, c'est Etta James. Et manquerait plus qu'elle soit drôle. C'est le titre de votre premier woman show que vous avez commencé à jouer à Lyon d'ailleurs.
Ouais.
Il y a une salle en particulier qui vous a accueilli à Lyon au tout début.
La grande chance que j'ai eue, c'est que Lyon, c'est une ville de café-théâtre. C'était vraiment culturel. Il y en avait plein. Il y en avait au moins 8 ou 10. Ce qui était vraiment pas le cas en 2001. Toutes les villes de province n'avaient pas autant de petites scènes. Il y a le Boui-Boui, l'espace Gerson, il y avait l'accessoire à l'époque, il y avait le Nombril du Monde où j'ai démarré. Enfin, il y avait vraiment de quoi faire un an de tournée dans sa propre ville.
Comment tu veux démarrer au Nombril du Monde et pas avoir des problèmes de psychanalyse et de
Désolé.
C'est aussi le nom d'un super festival dans les Deux-Sèvres. Mais tout
ouais,
génial. Question. Tout à l'heure, on a dit que vous étiez hyper capable, c'est votre patte, de voir les petits détails dans la vie. Dans votre premier one-woman show, c'était quoi le sketch un peu qui, comme ça, qu'on pourrait retenir?
Mais tu sais, moi j'ai l'impression que je fais toujours le même spectacle.
Ah bon?
Mais je l'avoue avec indulgence et avec humilité. Je crois que je fais toujours le même spectacle parce que j'ai toujours les mêmes failles. Et finalement, quand j'écris, je me dis putain, mais je l'ai déjà dit ça. Sauf que je le dis maintenant avec la voix d'une femme de 48 ans et les pensées d'une femme de 48 ans.
Et le point de vue n'est plus le même.
Et le point de vue n'est plus. Ouais, non. Et puis le monde change.
Le monde change.
Mais en fait, mon premier spectacle, il y avait déjà. Oh, moi, je suis pas la fille, jolie fille qu'on épouse. Moi, je suis la bonne copine, machin. Et finalement, 48 ans, je dis encore la même chose. Mais donc, un premier spectacle, c'est toujours très joli, un premier spectacle, parce que c'est vraiment nourri des vraies failles. Des vraies blessures de l'enfance. Et mon premier spectacle, c'était, je te dis, c'est toujours les mêmes thèmes, c'est les complexes, c'est les rapports hommes-femmes, c'est le fait de se sentir homme et femme à la fois. J'avais un sketch où je jouais une chef d'entreprise qui harcelait son secrétaire pour inverser
le rapport de domination.
Le rapport du patriarcat. Enfin, voilà. Et finalement, j'ai toujours été dans ces thèmes-là et je les ai jamais quittés.
Et toujours avec un chien.
Putain, et oui, j'avais déjà le chien, tu
bah
vois.
Oui. Non, mais c'est vrai.
Elle évolue beaucoup, celle-là.
Mais
le prends pas mal.
Écoute.
Non, je le prends pas mal parce que je suis. En même temps, on peut pas me dire que je suis pas restée fidèle.
C'est ça. Et puis la série est dédiée à Bernie, d'ailleurs, en désordre.
Ouais.
Et dédiée à votre.
Mon bulldog disparu,
chien Bernie. Mmh. En 2011, vous écoutiez donc Jocelyn Brown. Que se passe-t-il en 2011?
2011, c'est Hollywood avec Jamel Debbouze, film réalisé par Frédéric Berthe.
Hollywood, Jamel Debbouze.
et Pascal Sérieux, qui était déjà de la partie, vous avez co-signé le scénario. Et vous dites dans les interviews que votre seul tort finalement sur cette expérience-là, c'est de ne pas vous avoir fait assez confiance.
Oui, c'était une et c'est normal aussi de douter. C'était mon premier, ma première expérience dans le cinéma, et donc j'ai beaucoup écouté, à gauche et à droite, partout, des gens légitimes pour m'aider d'ailleurs, des producteurs, des réalisateurs. Mais en fait, je me rends compte au fil du temps qu'il vaut mieux faire ses propres erreurs et les assumer plutôt que assumer les erreurs des autres. Et ça, en tant qu'artiste, c'est très très dur. Enfin, pour moi, c'est très très dur de me faire confiance. Et comme sur la série Désordre, d'ailleurs, où je devais faire semblant d'être sûre de moi. En fait, t'es sur un plateau et tu dois dire si je la vois comme ça la scène, alors que tu ne sais pas du tout. Et t'as peur et tu te dis putain, mais je fais sans doute une énorme connerie. Mais après, j'ai appris qu'il était beaucoup plus facile d'assumer ses propres conneries, de les reconnaître et d'en tirer d'ailleurs des enseignements, plutôt que de se dire putain, j'aurais pas dû l'écouter lui, je savais ce que je voulais.
Dans des ordres comme dans Hollywood, il y a aussi cet amour des comédies américaines et de se servir de ces codes-là pour en faire une nouvelle à la française.
Ah oui, je m'en cache pas, j'adore les comédies américaines, j'ai toujours adoré ça. J'adore les comédies romantiques aussi. J'adore Sex and the City et ses clichés. Vraiment, j'adore ça parce que c'est fait pour faire rêver la fiction. C'est pas là pour être... Alors oui, elle a un mec toxique, Carrie Bradshaw, un Mr. Big, mais putain, elle nous fait rêver, putain, mais on croit qu'on peut marcher avec des talons de 12 dans les rues de Manhattan, alors que évidemment non. Ouais. Mais moi, c'est ça que je veux voir dans une fiction, c'est pas ma vie de merde que je veux voir, c'est une vie rêvée que je veux voir.
Oui, enfin, il y a aussi le côté fragilité de ce métier, le côté éphémère, dans Hollywood comme dans Désordre. Il y a toujours cette même fragilité aussi.
Oui, bien sûr, mais en tout cas, j'assume totalement le fait d'être inspiré par les comédies américaines et le jeu outrancier des Américains aussi, ne l'oublions pas, parce que c'est un jeu que j'adore, moi, ce jeu un peu clownesque, un peu outrancier.
Quand on parle du côté éphémère, justement, du métier, j'imagine que c'est un questionnement au quotidien aussi. Jusqu'à quel moment on continue de faire rire les gens? Est-ce que c'est nous qui vieillissons bien avec notre public ou pas? Comment on se renouvelle? Comment on résout ça?
Oui, c'est une question que je me pose avant de remonter sur scène à chaque fois entre deux spectacles. Ouais. Une fois que je suis sur scène, j'y pense plus parce qu'évidemment, on doit être dans ce qu'on fait et puis on n'est pas là à se flageller. quand la salle est pleine et qu'elle rit, on est plutôt rassuré. En revanche, c'est vrai qu'avant chaque nouveau spectacle, je me dis mais est-ce que j'aurai des choses encore pertinentes à raconter? Est-ce que je vais rester drôle? Est-ce que les gens ont toujours envie de me voir? Ça, je me la pose tout le temps.
Mais tellement, Florence.
Ah, vous êtes gentille.
Mais non, mais c'est vrai.
Non, mais je pense
vous
que
vous le sentez.
Non, mais c'est sain de se poser la question.
Vous
sentez
normal.
Vous le sentez cet amour, mais je pense que c'est une question que n'importe quel artiste peut se poser, y compris un chanteur qui a eu un
bien
succès,
sûr.
Il dit je dois faire un nouvel album, est-ce que je change de musique ou pas, est-ce que je reste dans le même, même créneau, est-ce que je déçois ou pas les autres, parce que
et c'est que dans le rire, il y a aussi quelque chose qu'on peut pas...
Bah, tu as des fidèles aussi.
Il y a l'air du temps, il y a aussi dans quelle époque on vit, quelle époque on a traversé et comment on rend compte de cette époque. C'est sans doute le cas aussi en chanson par l'inspiration, mais je trouve que dans le rire il y a... on peut aller voir un spectacle et se dire, ben voilà, ça me fait rire au fond, parce qu'il y a la technique du rire et ça fonctionne, mais dans le fond...
Mais pas que, bien sûr.
Mais pas que, dans le fond...
Humoriste, c'est pas animateur.
Non.
Pour moi, humoriste, c'est aussi porter un regard sur le monde qui nous entoure, mais aussi futile soit-il d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être profond et politique, mais... merde, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que moi, j'ai pas la prétention... je continue parce que j'ai pas la prétention de porter un regard d'une fille de 20 ans sur le monde qui m'entoure. Donc je vais... évidemment le porter avec mon regard de femme de presque 50 ans. Donc il va y avoir des choses un peu surannées, un peu réac certainement, bien sûr, mais c'est ma vérité. Ouais. J'ai 48 ans, je vais pas feindre d'en avoir 20. Donc et après c'est est-ce que ça suscite toujours l'intérêt d'avoir ce regard d'une femme de 50 ans sur ce qui l'entoure ou pas? Et puis
vous
après
vous en faites de la matière aussi pour les gags.
Bien sûr, et puis d'abord parce que le public, il n'a pas que 20 ans. Il
n'y
a pas que les jeunes qui parce que c'est vrai que les jeunes commandent beaucoup notre époque. Les jeunes commandent la musique qu'on écoute, les vêtements qu'on porte et tout.
Vous en parlez dans le spectacle, vous parlez de votre fille qui vous reproche un gros mot de dire enculé, dire maman, on dit plus enculé.
Ouais.
Et vous dites bah attends
bah oui, il y a une dictature de la jeunesse et on la subit nous en tant que parents à 50 ans, c'est sûr. Et c'est normal. C'est eux qui vont faire le monde, donc il ne faut pas s'y opposer. Mais en revanche, c'est toujours très drôle de constater qu'il y a quand même un putain de fossé entre ces deux générations et surtout à notre époque.
Mais ça a toujours été le cas, tout le temps.
Ça a toujours été le cas, bien sûr. Les blousons noirs.
Bah,
oh, écoutez du rock'n'roll.
Choquant.
Oh, les méchants, les vilains.
Sauvages.
Non, mais bien sûr.
Sauvages.
Bien sûr, mais c'est marrant parce que les gens de 50 ans ont le droit d'aller voir des spectacles aussi. Voilà.
Et... tout à l'heure, vous disiez je suis humoriste et pas animateur ou animatrice. Alain Chabat a annoncé qu'il allait faire un late. Chose sur,
Ah, quand je disais animatrice, je parlais pas d'animateur télé, je parlais de faire de l'animation pour moi, faire
de vacances,
rire sans...
colonie de vacances.
Ouais, voilà, de vacances.
Non, mais pour en revenir à justement à ce que font les Américains et qui ne se fait pas en France, je vous verrais bien animer aussi un late show.
Oui, mais alors Chabat va le faire avec brio, ça va être génial. Enfin, j'ai hâte.
L'un n'empêche pas l'autre.
C'est trop bien.
Mais est-ce que c'est le genre de projet qui vous intéresse?
Il faut me garder les projets pour ma deuxième mon deuxième demi-siècle. Il me reste 50 ans, donc oui, il y aura le late show de Grandma Forestier. J'espère.
Le late, late show.
Ah, le very late. Le very late.
Le too late. Revenons à
l'optimiste.
Putain, quel bon titre, je vais te le voler, le Too Late Show. Ouais.
Non, je
te c'est génial. Ah yes.
Copro.
Ah allez. Ouais, génial, signé.
Désordre, la série est sur Canal à partir de ce soir. David Gourion nous a rejoint. Vous êtes psy, auteur d'Antistress. On parlait tout à l'heure, du moins, Florence Foresti disait que c'était pas propre à son métier, mais qu'elle avait toujours eu des crises d'angoisse. D'ailleurs, vous en êtes rendu compte à partir de quel âge ?
Oh bah, 6 ans, hein. Ah oui. À 6 ans, quand t'as une gosse qui dit « je vais mourir », appelez les urgences. Maman, appelle les urgences, je vais mourir. Il y a un souci. Ouais. Mais non, mais c'est un truc très sérieux, les crises d'angoisse, parce que maintenant, on dit déprimé à tout bout de champ, on dit crise d'angoisse dès qu'on a un pas de travers, mais les vraies attaques de panique d'un point de vue psychiatrique, je pense que vous allez me dire la même chose, mais c'est dévastateur, c'est dévastateur.
Oui, c'est
Daniel Gourion.
Alors, j'ai envie de dire, regardez, si vous voulez savoir ce que c'est qu'une attaque de panique, regardez absolument la série Désordre, parce que c'est extrêmement bien rendu. On sent d'ailleurs le
vécu, enfin, malheureusement.
Le psychiatre valide, malheureusement. Je suis désolé de le dire. Ben, c'est un état extrêmement pénible qui s'installe très vite, en quelques secondes ou quelques minutes, avec un sentiment de détresse, de menace imminente.
Oui.
On peut avoir l'impression qu'on va mourir, et puis, il y a plein de symptômes physiques. Ça peut être des
comme
palpitations.
La respiration, c'est ça?
Exactement. L'impression d'étouffer. Ça peut être des sueurs, des tremblements. Vraiment un sentiment de malaise général. Les gens parfois ont l'impression qu'ils font un infarctus, ils peuvent avoir l'impression aussi de devenir fous, de perdre le contrôle. C'est vraiment
Et les gens autour, autour qui ont plutôt envie, eux, de dire non, mais ça va quoi, respire.
C'est horrible, c'est ça qui est horrible.
Fenêtre, qui banalise, qui minimise.
Mais c'est
guillemets.
Pour ça que je voulais en parler dans la série, parce que c'est très dur. Moi j'ai eu des amis très proches qui m'ont dit.
Lâche.
Et c'est pas de leur faute, c'est que c'est incompréhensible comme symptôme, parce que vous avez quelqu'un qui va bien et qui vous dit je vais crever. Et moi j'ai fait toutes les urgences de France, j'ai appelé tous les pompiers de Paris, tout le monde me connaît, je fais des électrocardiogrammes toutes les semaines, enfin bon bref. Donc on passe pour des hypochondriaques un peu cons, alors qu'en fait on vit un vrai, comme vous disiez docteur, un vrai moment de détresse épouvantable. Hein.
C'est le système d'alarme du corps qui se déclenche. Ouais. Et en fait c'est comme si vous disiez à un petit chat calme-toi, tout va bien. En fait on a ça dans le cerveau d'une certaine façon, on a un système limbique qui ne dépend pas de la raison. De la rationalité et qui nous a beaucoup servi il y a quelques milliers d'années parce que nos prédateurs nous couraient derrière, on risquait de mourir plusieurs fois par jour. Ce système, il nous sert à fuir, à nous battre. Et quand il s'active, comme une alarme, il ne dépend pas de quelqu'un qui va vous dire « mais enfin, détends-toi, tout va bien ». C'est presque pire d'ailleurs quand on vous dit ça.
Oui, c'est très bien dit, c'est très bien résumé. Quand on vous dit « tout va bien », c'est pire. Il vaut mieux faire rire ou mettre une gifle.
Oui, il vaut mieux détourner l'attention, bien sûr.
Peut-être pas mettre une gifle, mais
non, je
la gifle, non, je fais pas trop. J'ai fait au début de ma pratique, maintenant j'arrête.
Ça marche pas du tout.
Ah, mais le mec, il continue en plus. J'ai fait au début. Est-ce que les crises sont aussi multiples que les personnes qui les vivent, ou est-ce que vraiment il y a des symptômes qui sont communs à toutes celles qui ont vécu?
Souvent, ça se ressemble. Ceux qui ont vécu reconnaissent. Alors, certains auront plutôt des vertiges, d'autres auront plutôt l'impression d'étouffer, d'autres l'impression de faire un infarctus, mais il y a quand même toujours ce sentiment de danger, de menace imminente.
Même si c'est pas le même point de départ pour tous ceux qui ont des crises d'angoisse, est-ce que pour une personne qui a des crises d'angoisse, c'est toujours le même point de départ ?
Pas toujours.
Non.
Parfois, c'est très. Mais je parle sous votre contrôle. Hein.
Parfois, oui, c'est très. Appelez-moi professeur.
Mais absolument. Mais qui nous apprend la médecine d'après vous ?
Ouais.
Les malades ?
Bien sûr. Patients. Donc, ils nous disent parfois, c'est venu comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Out of the blue, tout allait bien. Et d'autres fois, c'est. Je sentais, j'étais fatigué, j'étais pas bien, j'étais stressé, j'avais des ruminations. Parfois, c'est la peur de l'attaque de panique. C'est la peur d'avoir peur.
La peur d'avoir peur,
c'est l'anticipation anxieuse.
Et c'est pour ça qu'on tombe, que c'est une maladie qui peut te faire tomber en dépression, qui te fait tomber en dépression, parce que une fois que tu as fait une crise d'angoisse, tu es dans la peur de la suivante. Tu arrives dans la peur de la peur et tu te renfermes et tu te mets dans une situation d'évitement, c'est-à-dire tu évites tous les endroits ou les moments où tu as fait des crises d'angoisse et tu finis seul chez toi et puis tu finis par avoir des crises d'angoisse chez toi et c'est là qu'en général il y a un risque, vous me direz avec vos patients, mais de tomber en dépression et c'est là que ça devient dangereux.
Et
parce qu'une dépression non soignée, on sait où elle va.
Voilà, mais est-ce qu'une dépression, on s'en rend compte ou est-ce que ce sont les autres qui vous renvoient une image en disant là, t'es en dépression? Est-ce qu'on sait qu'on est en dépression, en fait ?
Souvent, les gens... souvent, c'est un peu l'entourage. Parce que, en effet, ce que vous décrivez très bien le processus, en fait, ces attaques de panique sont épuisantes. Ceux qui les vivent vous disent pendant plusieurs heures après... Physiquement et psychologiquement, je me sentais vidé. Puis vous décrivez très bien les évitements. C'est-à-dire, puisque j'ai fait une attaque de panique dehors, dans le supermarché, ou dans la rue, ou dans le métro, j'y vais plus. Ou au travail, j'y vais plus. Et donc, vous développez un système qui vous restreint considérablement. Vous êtes épuisé, vous vous déprimez, vous vous en rendez pas forcément compte tout de suite.
Il n'y a rien de médicamenteux. Comment on peut faire? Parce qu'en fait, on
dit médicamenteux. C'est ce qu'on voit.
Alors moi, ce que j'ai, essayé de montrer dans la série, c'est que parfois, on ne peut pas s'en sortir autrement.
Évidemment qu'il y a plein de thérapies. Elle ne veut pas toujours les prendre, ces médicaments.
Bah, elle ne veut pas, parce que d'abord, il y a quelque chose de honteux à prendre des antidépresseurs. On le sait, on le sent. Dès qu'on en parle, ça met une petite gêne. Ou alors, on va dire, oh, l'autre, elle est sous cacheton. Regarde-moi là, elle est sous cacheton. Parce qu'on croit que les antidépresseurs, c'est un truc qui te met. Défonce alors que
la
pas du tout.
La Sage Toubib pour rédiger l'ordonnance, c'est formidable.
Oui, parce que quand on est atteint de crise d'angoisse, on devient assez bon en médecine, assez bon en médecine.
Mais tout ça, ce sont quoi, des molécules chimiques qui viennent pas forcément arranger les choses. Ça ne fait que couvrir finalement le.
Oui, mais regardez un anti-inflammatoire quand vous avez une sciatique, c'est quand même bien pratique parce que ça vous permet de vous lever et de faire les choses.
Non. Alors le problème des anti-inflammatoires, c'est que ça vient.
Bon, ça, il y a les médecins.
Ah là là. Non, c'est pas ça. Non,
mais docteur Nagui.
Allô, docteur. Oui.
Pour en avoir pris, c'est qu'à un moment donné, vous avez un peu mal quelque part. Vous savez que vous avez besoin d'anti-inflammatoires, donc vous le prenez. Sauf que la source du problème est totalement ailleurs.
Mais c'est ce qu'il dit. Il dit pas le contraire.
Nagui, je vous contredirai pas sur votre plateau, mais néanmoins, ça vous permet.
Si, vous pouvez.
Ça vous permet quand même de faire la kiné que vous ne pourriez pas faire si vous aviez trop mal au dos. Ça vous permet de faire la kiné que vous ne pourriez pas faire.
Très bien. Ouais. Et pareil, le traitement. Moi, je voulais revenir aux antidépresseurs, justement.
Eh bien, oui, mais regardez.
Est-ce que ça permet de faire un traitement que l'on n'aurait pas pu faire sans les antidépresseurs?
On va dire à notre patient qui fait des attaques de panique, on va vous apprendre à respirer, on va vous apprendre l'hygiène de vie, le sport, tout un tas de trucs, la méditation en pleine conscience, les thérapies comportementales. Mais pour pouvoir faire tout ça, il faut sortir de chez soi. Pour aller chez le psy, il faut avoir l'énergie pour le faire. Si la personne est complètement au fond, elle ne peut pas le faire. Donc, il y a parfois un aspect synergique entre le traitement qui permet d'aller un peu mieux, de retrouver un peu d'énergie, et de pouvoir mettre en route la psychothérapie et les conseils.
Laura, c'est exactement ce que je voulais montrer dans la série.
C'est très bien montré.
On est tous réfractaires à cette histoire d'antidépresseurs, de chimie, de machin. Mais parfois, tu n'as pas d'autre solution pour vivre. Moi, j'ai connu deux dépressions dans ma vie. J'étais à l'article de la mort, tu es aux portes de la mort. Ta vie ne sert plus à rien, j'avais même plus conscience que j'avais un enfant, tu te rends compte? Enfin, c'est très grave, la dépression mène au suicide, on le sait. Donc il faut arrêter de dire aux gens, les cachets c'est nul, etc. Si ça te permet de rester en vie, de rester debout et d'entamer, en effet, il y a tout un panel maintenant de thérapies comportementales qui sont extraordinaires, dont le mindfulness, etc., la pleine conscience, bien sûr pour lutter contre les crises, mais il faut arrêter de stigmatiser les gens qui ont besoin de cachets comme ceux qui en ont besoin pour leur diabète ou pour d'autres choses.
Et si je peux me permettre, je trouve ça formidable que quelqu'un comme vous soit en mesure de le dire. Je trouve ça hyper courageux. Merci. Je pense que quand d'immenses stars comme vous, je pense aussi à Stromae qui a eu le courage de le chanter, ça a un impact considérable qui font que les gens se soignent et que c'est moins tabou qu'hier.
Laura ?
Non, je disais aussi qu'il y a quelque chose de profondément, me semble-t-il, vraiment mécanique. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de sérotonine qui est vraiment à plat et donc on refait un petit shoot. C'est pas un déclencheur psychologique, c'est pas une volonté de dire je vais pouvoir me lever. Voilà.
La méthode simple pour soigner l'anxiété et la déprime, c'est également un livre aux éditions Marabout, signé David Gourion.
Merci
Daniel Morin.
Alors aujourd'hui, les amis, mon héros aurait dû être Jair Bolsonaro pour célébrer sa réélection à la tête du Brésil. Mais comme c'est incapable, n'est pas passé au premier tour. Désolé Nagui, vous me l'avez demandé tout le week-end, mais non, Jair n'est pas mon héros du jour. Aujourd'hui, les amis, mon héros du jour est une viennoiserie. Oui, ça peut paraître choquant de décerner ce titre prestigieux et une gourmandise. Mais à cela, je réponds, et pourquoi pas, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Je fais ce que je veux. Et j'ajouterais même qu'en ces temps difficiles où, selon l'INSEE, les Français n'ont pas le moral, parler réconfort, c'est pas si con. Cette viennoiserie chère à mon cœur en ce 3 octobre, c'est le Douwap. Douwap, petite brioche incrustée de pépites de chocolat au lait ou bien chocolat noir. Douwap est là pour satisfaire tous les goûts. Satisfaction des goûts donc, mais avec un petit plus. En effet, il a été noté que sur la liste des ingrédients figurait de l'alcool. Dans les petites brioches à trempouiller dans le café, le chocolat ou les céréales de nos enfants. C'est là qu'intervient le coup de génie. Quand un enfant trempouille son douwap et qu'il croque, il s'initie aux délices de l'alcool. Doucement, mais sûrement, il ingurgite plus qu'une brioche qui dégouline, il ingurgite un art de vivre. Oui, parfaitement. En prenant un peu d'alcool très tôt, il apprend à devenir... Il apprend à devenir français, mes amis, français, dès le plus jeune âge. Il aura cette petite lueur dans le regard qui fait qu'un français reconnaît un de ses semblables. Quand le matin on croise Leïla, on a tout de suite compris. Dans son œil droit, ce petit truc luisant, c'est pas une larme, c'est tout simplement l'esprit du calva, du Ricard et de la Suze qui scintille. Et oui, Non, Racine trempe, elle trempe dans l'alcool. Un apprentissage qui, comme tous les apprentissages, n'est un succès qu'à condition qu'on s'y attelle le plus tôt possible. Et avec Douap, on a cette possibilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 3 octobre, j'en appelle solennellement au président de la République. Monsieur le Président, Emmanuel, mon Manu, tu le sais, on le sait, tout le monde le sait. La France est un pays de traditions, de belles traditions, et pourtant en ce moment, elle paraît plus que jamais divisée. Alors qu'un petit verre quotidien se nous a construit, Monsieur le Président, quelle meilleure idée que de se retrouver autour d'un projet commun, l'alcoolisme. Pour que notre patrie reparte de l'avant, qu'elle soit enfin unie, elle a besoin de valeurs communes. C'est pour ça, Monsieur Macron, que je vous demande de rendre obligatoire la consommation de Douap. Un Douap gratos et obligatoire pour chaque enfant dès le CP. Grâce au Douap alcoolisé, les enfants d'hier seront les adultes de demain, qui auront tous quelque chose de fort en commun. Vous l'aurez compris, les amis, le Douap mérite amplement d'être au moins le héros du jour, si ce n'est la grande cause nationale de l'année.
Merci, Daniel. Douap. J'aime
bien dire Douap. T'as fait la chronique juste pour dire Douap.
Exactement.
Tant qu'il passe sur eau, de quoi vas-tu nous parler?
Je veux parler du pull à col roulé, Nagui. C'est moche, mais c'est bien chaud et c'est très à la mode maintenant.
C'est tendance, absolument. Oui, Florence Forestier, notre invitée, jusqu'à midi et demi. C'est le moment original avec Léla Cadeau-Boudadi, Laura Domange, Camille Lava, Tanguy Pascureau, Daniel Morin, notre invité, Florence Foresti.
Bonjour la France.
C'est lundi, c'est Foresti.
La série, Florence, il n'y a que pour le dimanche hein, que ça ne marche pas. La série de Florence Foresti, donc Désordre, commence cette création dès ce soir sur Canal, 2 épisodes par lundi et ce donc pendant 4 lundis. Est-ce que vous vous êtes posé la question d'en faire un film? Parce que c'est quand on... Jamais? Non, c'est une... ça devait être une série?
Parce que bah, ça moi pourrait être un film. J'aime beaucoup ce support-là, la série, parce D'accord. que...
Le rendez-vous
Oui, et puis j'ai trop de respect pour le cinéma. C'est-à-dire qu'au cinéma, j'ai envie de voir des grandes choses, des belles.
Vous n'avez pas tout vu.
Oui, non, mais d'accord. Mais non, mais disons que mon écriture, elle va mieux à la série, si tu veux, parce que d'abord c'est une écriture comique, ensuite autofiction. Bon, non, au cinéma, non.
D'accord, non, okay. Vraiment. Je n'insiste pas. Ouais. Et il y a beaucoup de musique, je le rappelle, dans la série. Vous en avez passé tout à l'heure des extraits dans votre bande originale. On est quand même dans la musique noire américaine.
Y a-t-il mieux?
Ah bah oui, si, il y a le...
Il y a Lloyd. Tu t'en souviens de Lloyd Cole?
Évidemment, And the Commotion.
Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est plus là? On l'entend?
Il vous manque, hein?
Bah moi, je l'adorais.
Là, on est plus dans la pop anglaise. Un peu... Un peu quoi? Un peu triste, mais tellement belle.
Non, celle-là, elle est triste, mais il en a fait des joyeuses. Je vous invite à redécouvrir Lloyd Cole and the Commotion.
Très bien. Donc, beaucoup de musique et beaucoup d'alcool dans les bon ordres.
Pour qui tu me fais passer? Non. Pas du tout, que dans l'épisode 1. C'est tout. L'épisode 1 qui est un peu une fausse route. Parce que justement, l'épisode 1 où je... Non, mais c'est vrai.
Fausse route, on peut s'étouffer aussi.
Non, mais l'épisode 1, on a justement cette impression de Sex and the City à la française et je m'en amuse. Et puis très vite, on part ailleurs. Mais cet épisode 1, je voulais me débarrasser de cette, comme je disais, de ce truc-là. Mais donc, on a l'impression que ça va être ça, la série, et pas du tout. Voilà. Non, je dis ça pour les gens qui vont s'arrêter au 1.
Il faut surtout pas. Non, mais c'est impossible. C'est impossible parce qu'on
on la suit.
On est attaché à ce personnage. J'arrive même pas à dire à Florence Foresti parce qu'on a quand même l'impression, même si c'est auto-centré, le nombril du monde, comme pour la salle de Lyon, c'est quand même votre double, alors double maléfique ou double angélique, peu importe, mais en tout cas, c'est une autre personne. Et c'est ça qui est extrêmement drôle. Et puis, c'est bien réalisé. J'imagine que là aussi, vous vous êtes amusé à certains plans. Je repense encore au cours de yoga. Il y a des axes de caméra qui sont des vannes à elle toute seule, quoi, sans rien dire.
Bah, juste, on voulait
on
voir
met
le
la
monde.
Là, et c'est drôle.
On voulait montrer le monde. Enfin, la réalisation, on s'est dit que tant qu'à faire une autofiction, autant montrer le monde à travers le regard de Florence. Donc évidemment que c'est toujours mon point de vue et c'est le point de vue toujours de, enfin souvent, notamment au yoga, de la fille complexée. Bien sûr, c'est beaucoup plus drôle, non?
Qui oublie son chouchou.
Oui, voilà.
Le coup classique. Bah,
Oui, mais justement, c'est le incroyable canon qui, évidemment, a le deuxième chouchou.
Oui, parce que souvent, elles sont gentilles en plus d'elles. Ce qui ne permet pas de les détester. Ça, c'est très emmerdant. Parce qu'une fille belle, très con, c'est génial. Comme ça, on peut déverser tout. Mais alors, quand elles sont sympas, et moi, je voulais qu'elles soient gentilles, ce personnage, ça, c'est trop dur. Ça, c'est trop dur. J'en connais dans la vie, et ça, c'est pas gentil. C'est pas sympa pour nous.
Et puis, il y a des effets de réalisation aussi, là, pareil, sans déflorer, où il y a l'image telle qu'elle est dans la réalité, et l'image telle qu'elle est vue, justement, le prisme du regard des mecs qui vous regardent passer. Là, là encore une fois, c'est de jouer avec des codes. Alors, c'est des codes que le cinéma vous a inspiré, que il y a des références que vous avez prises sur des films cultes pour vous, sur des séries ?
Certainement, sans m'en rendre compte, bien sûr, pour avoir consommé énormément de comédies américaines, mais des codes aussi que j'ai pris malgré moi dans toutes les séries que j'ai regardées, bien sûr. Évidemment, ça c'est certain, mais ça je suis incapable de dire quel moment en particulier.
Est-ce qu'il y a des frustrations aussi à un moment donné de se dire je peux pas faire ça, j'aurais aimé avoir je sais pas tel effet ou tel guest.
Alors
mais
d'abord
il peut pas à cause du planning ou.
J'ai été très chanceuse d'être accompagnée par Canal+ et par Iconoclast, mes producteurs, parce que vraiment ils ont donné les moyens de la comédie. Et souvent on pense que la comédie c'est pas cher, c'est facile. On se dit il y a Foresti, c'est bon, chut, ça suffira très bien. Pas du tout. La comédie c'est hyper exigeant et cher. Je tiens à le dire, c'est horrible parce que c'est tellement exigeant, ça souffre pas à peu près. En fait, si tu fais une blague telle que tu l'as visualisée, si tu la fais à peu près, c'est complètement à côté. Ça demande une exigence de production incroyable et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai vraiment eu tout le loisir de pouvoir mettre en scène comme je l'imaginais.
Tout à l'heure, vous avez dit que l'humour était essentiellement basé sur le tempo quand vous êtes sur scène et que le rythme était très important. Le rythme est donné au montage en fiction. Là aussi, vous y êtes allé, vous êtes.
Ah oui,
on a
passé trois mois au montage avec Pascal Serriès, donc j'ai envie de dire le co-réalisateur, même s'il n'est pas cité comme tel. Mais il a tellement investi de temps et de talent dans le projet que je suis obligée d'en parler comme un co-réalisateur. Oui, on n'a pas quitté la salle de montage tant qu'on n'était pas content. C'est un formidable moment aussi pour raconter l'histoire à nouveau et essayer d'enrichir les erreurs qu'il peut y avoir au tournage, parce qu'on a fait aussi beaucoup d'erreurs de débutants, parce que première réalisation, mais on a
mis
tout notre cœur, en tout cas.
Tellement mieux réussi que celle de Jonathan Cohen, quand même, il faut le dire, parce qu'il a un peu raté.
Mais lui, c'est de la télé-réalité, c'est facile.
C'est ça, c'est pas
je rigole, bien sûr. C'est référence à. Bon, bref, c'est un copain. Donc il
référence à la bande-annonce faite par Canal+,
ouais.
Pour la rentrée, c'est ça.
Où on se tire la bourre. Hein.
C'est ça, à juste titre. Voici Tanguy, passion.
Hier, j'étais en train de pleurer, comme chaque dimanche et les autres jours de la semaine. Donc, j'ai décidé, pour me distraire, de regarder les infos. Pas celle de Leïla Kaddour. Elle, je la regarde le samedi pour la rubrique culinaire, les petits plats dans...
L'écran.
Le titre de rubrique qui donne envie de se trucider en se tranchant les veines avec un almanach des grosses têtes. Cette semaine, le thème, c'était la patate douce. Ils avaient mis un bandeau avec écrit « patate 2 points pourvu qu'elle soit douce ». Je ne vous cache pas que j'ai été saisi d'une grande fatigue. D'autant que pourvu qu'elle soit douce, dans mon souvenir, c'était ce clip de Mylène Farmer dans lequel les gens se cravachaient les fesses. Vous voyez le prix de l'Arc de Triomphe. Bon, c'était un peu ça, mais avec des personnes. Et maintenant, dans la tête, à la place de Mylène Farmer à poil, j'ai des patates. J'ai la vie d'un gros gourmand du Pas-de-Calais, quoi. Super. Non, j'ai mis BFM TV et je suis tombé sur Xavier Bertrand. Vous vous souvenez ?
Oui.
Il a perdu dès la primaire à droite. Il est reparti chez lui. Ça fait 5 mois qu'il tourne en rond. Sa femme lui a monté une roue à hamster. Il bouffe de la paille. Une fois par jour, il pousse des petits cris pour avoir ses granulés. Donc là, il revient gonflé à bloc. Samedi, il a lancé son mouvement politique. Nous, France. Alors, je sais, il manque des mots. Hein, ça rappelle Wesleyan quand elle avait chanté Tu hors de ma vue. Il n'y en a plus un qui parle français dans ce pays à la con. Hein, par classe de CP, il y a 26 gosses diagnostiqués HPI, mais ça ne se retrouve pas du tout plus tard dans le niveau global. Hein. Alors, face à Xavier Bertrand, à ce moment-là, il y a Duhamel, pas Alain, Benjamin, parce qu'il y a un vivier à BFM. Ils ont tous les Duhamel. Hein. C'est l'arrière-grand-mère Josiane Duhamel qui a dû les déstocker. Il y a aussi Enzo Duhamel qui bosse à la compta, qui vient travailler avec Fifou Duhamel, son chien. Bon. Et là, Benjamin Duhamel qui s'est endormi parce qu'il est face à Xavier Bertrand, qui a le même effet sur les gens que 17 000 comprimés Nova Nuit se réveille et se dit quand même si c'est Xavier Bertrand, il faut quand même que quelqu'un pose une question, sinon le CSA va nous couper le signal. Et il demande à Bertrand « Que pensez-vous des ministres qui mettent moins de chauffage ?» Bruno Le Maire, en pull à col roulé, tout ça. L'autre répond « C'est de la com à 2 balles ». Et là, je me dis « Waouh, c'est Xavier Bertrand, quoi, le petit marchand de sable qui parle comme ça, mais il s'est pris pour Eminem, quoi. Hein, il a vrillé, mais je suis déstabilisé. » Oui, parce qu'il y a une crise énergétique. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Voilà. Non, j'essaye tellement d'entrer à France 2. Poutine nous a coupé le gaz. En plus, son tuyau est percé, donc le gaz il sort en mer Baltique. Pour faire chauffer ses nuggets de poulet, il faut une barque. Et comme une bonne partie de l'électricité est produite par les centrales à gaz, comme on dit dans le jargon géopolitique, on l'a dans le cul. Hein, voilà. Pardon si je suis un peu technique. Bon. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cet hiver, il risque d'y avoir des coupures d'électricité. Et ça,
pour Madame Foresti comme pour moi. C'est affreux parce qu'on est sur scène. D'accord, pas dans des salles de même taille parce que je refuse les zéniths. Par pudeur. Il y a trop de monde. Or, moi, je suis sur l'humain. J'ai besoin d'un écran qui permette d'instaurer une intimité avec le public, comme disent tous les gens qui ne remplissent pas des zéniths. Bon, tout ça pour vous dire qu'en plein spectacle cet hiver, il peut y avoir coupure de jus. Tout le monde va se retrouver dans le noir. Les spectateurs, au bout de 20 minutes dans le noir, vont commencer à se tripoter par ennui. Hein, c'est parce que ça se passe toujours comme ça. C'est pour ça qu'il faut se méfier des aveugles. Oh, pardon, je pensais qu'il s'agissait de ma canne. Bon, et après, c'est dur de revenir dans le spectacle. Donc, on va manquer d'électricité, de gaz, mais le gouvernement a un plan. Voilà, un plan pas cher, déjà développé dans l'Albanie soviétique des années 70 en cas de frima. Le plan pull. Voilà, c'est Bruno Le Maire, ministre des Finances, qui a expliqué la stratégie de l'exécutif sur France Inter la semaine dernière. Fini la cravate, a-t-il dit. Désormais, je porterai des pulls à col roulé. Hein, ce sont ces pulls affreux qui vous font remonter les plis du cou sous les yeux. Hein, vous faites ça avec un goitre, vous mourrez étouffé. Hein, donc là, on se disait, oui, c'est encore du blabla, tu parles, on risque autant de le voir en pull que de voir Zaz en Chanel ou de voir Faudel tout court. Hein. Et on l'a dans l'os. Et oui, parce que sur Instagram, l'Instagram de Bruno Le Maire, mais c'est la fête du pull à col roulé. En post, il est en pull à col roulé. En story, en pull à col roulé. Il y a juste la tête qui dépasse. On a l'impression qu'il est en train de se faire bouffer par une énorme pelote fil d'art. Hein, visuellement, on n'a rien vu de plus atroce depuis l'invention de la photo en 1839. Mais attendez, le plan pull lancé par la France pour éviter de se geler les miches, comme disent les jeunes de la génération Z, dépasse le cadre strict du pull. Elisabeth Borne, elle, se déplace maintenant en doudoune pour donner l'exemple aux gens, a-t-elle dit. En fait, c'est une influenceuse, voilà, la Tati Daniel de TikTok. Un seul influenceuse en doudoune, puisque les autres n'ont pas de vêtements. Alors après, Elisabeth Borne, quand on la voit, on n'a pas forcément envie de tout faire comme elle, parce qu'elle est moins rigolote qu'une épilation à la cire chaude quand on revient de 3 mois à Koh-Lanta. Enfin, parce qu'il faut vraiment lutter contre le gaspillage d'énergie, Gilles Legendre. Bon, on a le maire, Legendre, ça fait presque un village Playmobil, qui est député de Paris, a déclaré mercredi sur France Info, je le cite, « Moi, ça y est !» Donc on se dit, oula, il a pris une décision radicale. Hein, « Moi, ça y est, chez moi, ma femme et moi, on a décrété... on se sert plus du sèche-linge. » Ah bah oui, mais depuis, il est trempé. Hein, depuis, il goûte dans son sillage. Il y a des tas d'escargots qui essayent de le suivre. Mais en fait, non, il explique qu'il a ressorti tout simplement son étendoir. Voilà donc, doudoune, étendoir, col roulé. Grâce à ça, on va avoir de la lumière tout l'hiver. Et c'est dommage parce qu'on va réaliser, du coup, qu'on a l'air quand même très très con.
Merci Tanguy Passeau. Et Tanguy, ce samedi, au Grand Théâtre de Limoges.
Ah bah tu vois.
Très grand.
Ça a commencé la semaine dernière et ce jusqu'au 31 décembre 2023, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une tournée évidemment jusqu'au 31 décembre de cette année au Théâtre Marigny, puis la tournée dans toute la France. Le 9 mars, Florence Foresti sera à Amiens, puis le 10 mars au Mans, 14 et 15 mars à Rennes, le 16 mars à Brest, puis Bordeaux, Pau, Tours, Limoges, Strasbourg, Dijon, Nice, Montpellier, une tournée mondiale, Orléans, tu vois. Très jolie ville, Orléans. Mmh. Et deux soirs, d'ailleurs, les 5 et 6 octobre à Orléans. Puis ensuite, il y aura Caen, Nantes, Toulouse, Clermont-Ferrand. Et retour après Lille et Aix, retour à Paris, ça sera cette fois-ci à l'Olympia du 20 décembre 2023 au 13 janvier 2024.
C'est dingue, fatigué d'avance. Ouais.
Mais c'est une véritable gestion aussi, parce que tout à l'heure, votre vie de maman, on en a parlé à propos de la série Désordre et vous l'évoquez dans la série. Mais là, il va falloir s'organiser, non ?
Elle veut plus de moi, là. Elle a 15 ans, ma fille. Elle a quand même moins besoin de sa maman qu'à une certaine époque.
Mais honnêtement, ce genre de tournée, ce genre d'emploi du temps et de planning se fait aussi à partir de considérations personnelles. Disant, il faut quand même que je me repose. Céline Dion le fait un jour sur deux. Enfin, quand elle chantait, c'était un jour sur deux. Il ne fallait pas qu'elle chante pour économiser la voix. Est-ce que là aussi,
moi,
vous
pareil.
Vous dites...
pareil, ma voix, mon capital beauté, tout ça. Ouais,
Et le physique, et ce corps sublime.
Ce corps de rêve.
Vous l'entretenez ?
Bien sûr. Non, pas du tout. C'est la scène qui l'entretient. Moi, je me sers de la scène comme c'est ma salle de sport.
C'est vrai ?
Bah oui.
Et le yoga qui est présent dans Désordre est une réalité dans votre vie ?
Non, elle a plus le temps. Elle fait plus yoga. Il fait du yoga, lui ?
Il fait pas.
On dirait.
Il a jamais.
Ah bon ?
Il devrait peut-être.
Non, je croyais. Non, je fais plus rien du tout. Quand je suis sur scène, je fais pas de sport à côté parce que j'ai plus la force.
Et l'hygiène de vie, faire attention à ce que vous buvez, ce que vous mangez.
Bien sûr, Nagui. Bien sûr.
pas manger le soir ou pas manger avant le spectacle, j'imagine qu'il y a des choses à
oui
à
non, gérer. Mais bien sûr qu'au bout d'un moment c'est un peu du sport, ouais donc ça on fait danse. Je suis obligée de faire attention, mais ce qui est génial c'est que ça me sauve en fait la scène, j'ai remarqué, parce que comme justement ça exige d'être quand même par politesse très très en forme pour les gens pour le prix des places. donc ça, oui, ça me contraint à restreindre ma consommation d'alcool, par exemple. Non, mais c'est génial, ça me sauve la vie. C'est super, cette scène. Vraiment.
Florence
c'est tout bénef.
Sur scène au Théâtre Marigny, jusqu'au 31 décembre, et puis ensuite en tournée partout en France, et de retour à l'Olympia en décembre et janvier 23-24. Et puis Désordre, c'est à partir de ce soir, 2 épisodes par lundi sur Canal. D'autres événements, Leïla, oui. Dans le monde de la culture.
On va parler de Juliette Binoche, qui a annoncé qu'elle refuserait les rôles de...
Bimbo.
Alors attends, parce que ça doit avoir avec la polémique de tiens, je suis pas gay donc je joue pas un gay, je suis pas noir donc je joue pas un noir. Non, c'est pas ça.
De sexe ?
Non.
Non ?
De vegan. Pas de scène de sexe.
De maman. Oui, non, je m'en cherche.
De vegan, elle a dit.
Ah,
de
non, vieille dame, j'ai dit, pas vegan.
T'as dit quoi ?
Vieille dame.
Vieille dame.
Ah, vieille dame, j'ai dit vegan.
Mais c'est bien.
Non, pas, c'est pas en lien avec l'âge.
C'est politique.
Ah, c'est un choix politique.
Ah, alors de ne pas faire de rôle de nazi ou de...
Non, politique, oh, ça, non, peut être, ça peut être plus... C'est pas forcément...
Mais elle est engagée sur l'écologie, je crois, Juliette Binoche.
Ouais, mais c'est pas l'écologie c'est pas non plus. Ça, non.
C'est pas Bimbo.
C'est politique dans les choix de femmes et d'incarnation à l'écran.
Ah, elle veut plus jouer des mamans.
La cruche.
L'idiote,
la potiche. De femmes un peu soumises, ouais, à un homme de pouvoir.
La femme objet.
Faire valoir.
Plus de femme objet et plus de femme de quelqu'un. Voilà. Si cela n'amène rien sur son personnage. C'est-à-dire juste la femme
pour... Marie Curie, oui.
C'est dis ça. Donc, elle en était plus trop là, Juliette Binoche, j'ai l'impression. C'est plutôt un problème de début de carrière, ça,
non,
quand
mais
même,
elle
non
dit que vraiment...
Elle joue pas beaucoup des femmes d'eux.
Non, elle a pas beaucoup joué les femmes d'eux, mais elle dit que c'est important d'apprendre, en tout cas, à renoncer, à dire non à ces rôles qui transforment donc, les comédiennes en femmes objets.
Bien sûr, bien sûr.
Et qui, éventuellement, ne sont là, et on en parle souvent dans les scénarios, elles sont présentes en termes de nombre d'actrices, mais elles ne font que parler du personnage masculin, et donc elles ne sont jamais en train d'interagir.
Florence a raison, elle peut se permettre parce qu'elle est Juliette Binoche aujourd'hui, mais
elle dit simplement
une
que c'est
une jeune actrice ne peut pas refuser d'être une femme.
Non, c'est demande, pas ce que je disais. C'est pas ce que je disais. C'est qu'elle a, il me semble, déjà un beau. Enfin, elle joue souvent des femmes qui sont sujets dans l'action.
Mais on voit ce qu'elle accepte comme scénario, mais on voit pas ce qu'elle refuse.
Oui, tu as raison.
Comme
absolument
scénario, elle dit simplement qu'elle dit quand même beaucoup non, parce qu'on peut quand même bizarrement faire appel à Juliette Binoche pour être décorative.
Bah ça, j'en doute pas. Ouais.
Voilà. Est-ce que vous avez reçu beaucoup de propositions honteuses au sens où on vous propose des trucs.
Toutes celles que Juliette Binoche a refusées.
Non, on vous propose des trucs qui n'ont rien à voir avec votre talent, qui vous êtes, où on cherche une caution humour en se disant au casting Foresti, avec ça, on peut monter un film.
Ou une popularité.
Ouais. Alors moi, c'est idiot, mais je fais pas beaucoup de cinéma, hein, je m'en cache pas, et puis on le voit bien. Mais c'est
par
vrai
choix.
Que. Je... Hein?
Par choix.
Oui, parce que c'est vrai que je refuse, par exemple, là, on m'a proposé un rôle qui est pour une femme de 30 ans, je trouve. Donc, c'est pourquoi on me le propose alors que j'ai 48. Enfin, je trouve que c'est prendre les gens pour des cons. Donc, c'est vrai que j'ai toujours l'impression qu'il faut que je sois au moins en accord avec l'idée du rôle. Je dis pas qu'il faut que je sois, que j'embrasse les valeurs éthiques
bien
du
sûr
personnage. Sinon, ça limite quand même beaucoup les choses. Mais quand même, quand tu te dis, ben non, ce rôle irait tellement mieux à une fille de 30 ans ou ce rôle irait tellement mieux à une comédienne, je sais pas, enfin... parfois, c'est un peu hors propos, mais sinon, c'est vrai que parfois, j'ai été rebutée par des rôles de femmes trop connes. Ah. Je te jure, des fois, j'ai ouvert des scénarios, puis la nana était con. Souvent, des femmes trompées qui veulent récupérer leur mari, alors elles vont chez l'esthéticienne se faire épiler la chatte. Enfin, tu vois, je disais, mais c'est quoi ? Non, mais
c'est quoi,
je me rappelle
la représentation
d'un scénario comme ça que j'ai fermé parce que j'ai dit non, je veux pas ça. Ça me dégoûte les femmes soumises ou en tout cas. Alors, j'irai pas jusqu'à dire comme Juliette Binoche. D'abord, j'ai pas du tout ni sa carrière ni son talent. Mais c'est vrai que j'ai parfois été rebutée par des images de femmes trop cruches et je les reconnais. Enfin, c'est pas les femmes que je connais.
Alors, pourquoi ne pas l'écrire ce rôle ?
Mais parce que moi, mais je ne fais que ça. Mon métier, c'est que ça, de montrer l'image d'une femme forte. Oui, mais moi, il se trouve que mon métier, c'est la scène. Donc voilà. Puis il y a des gens qui le font très bien au cinéma. Il y a des réalisatrices incroyables, des réalisateurs incroyables qui font aussi des très beaux rôles de femmes sujets et pas objets. Et puis, mais là, c'est vrai que des fois, ça me freine quand vraiment elle ressemble pas aux femmes que je connais.
Ouais.
Quand c'est des films contemporains comme ça, avec une femme contemporaine dans son époque et qu'on me la montre comme j'en connais aucune, ça me rebute.
Avec qui aimeriez-vous tourner?
Oh, je m'en suis jamais cachée. Il y a des gens que je trouve un talent immense, comme Agnès Jaoui, comme j'ai pas tous les noms là qui me viennent, mais on a des réalisateurs et des réalisatrices extraordinaires en France. Il y a beaucoup de gens avec qui j'aimerais travailler.
Et quand vous parlez beaucoup de la scène, c'est seul,
oui,
mais ça peut être à plusieurs.
Oh, bah oui, comme le sexe. Non, je rigole. Quelle dame de merde. Non, mais j'adore le théâtre, j'adore jouer. Un des plaisirs que m'a apporté le tournage de Désordre, c'est de partager la comédie la avec troupe. Des comédiens incroyables.
Oui. Ouais. Ouais. Désordre, c'est ce soir, je le rappelle, sur Canal. Il y a 2 épisodes et ça sera tous les lundis. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument, déjà désolé pour Ali Rabéi, Christophe André, Nicolas Demorand, bref, tous les gourous, les escrocs du bien-être et de la méditation payés par France Inter, donc par le contribuable. Eh oui, des repris de justice qui n'en sont pas une leçon près, mais qui s'en sont pris une belle de leçon par notre expert psychiatre qui a dit à ce micro ici « Bien-être, mon cul, prenez des cachetons !» Bravo, monsieur. Désolé pour les petits pains avec barre chocolatée Peach, dont les distributeurs m'ont appelé à la pause pour me dire « Oh, il n'y a pas que dans les douabes qu'il y a de l'agneau, nous aussi on en met plein dans les Peach !» Et la Cadour a grandi en bouffant des Peach tous les matins. Mais bien sûr, t'as vu le résultat, t'as vu la coupe rose, t'as vu le regard, bah alors merde, qu'est-ce qui nous fait chier avec les douabes ? Calmez-vous les gars, calmez-vous, d'accord, je parlerai de vous bientôt. Désolé pour les fans de Florence Foresti, hein, qui a avoué ce matin refaire toujours le même spectacle. Alors, oui, c'est le même spectacle, mais elle l'a dit, vous avez vieilli les gars, donc ça n'a rien à voir. Allez voir Boys, 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 ou pour 15 euros, allez l'écouter. Désolé pour tous ceux qui aimeraient, après l'émission déconne d'aujourd'hui, qu'on revienne à quelque chose de plus sérieux, de plus concernant. Désolé, mais demain, on continue dans le LOL avec Cédric Jiménez et Anaïs de Moustier pour Novembre, un film sur les attentats de Paris en 2015.
Ouais, sur le comportement de la police et de la brigade anti-gang autour de ces attentats. Merci mille fois, Florence Foresti, d'avoir trouvé le temps de, de venir.
Et d'être restée jusqu'au bout.
Et surtout,
oui, c'est gentil.
C'était dur, hein.
Elle est au théâtre Marigny, jusqu'au 31 décembre, c'est complet, mais il y a un marché noir à tourner autour du théâtre. Les places sont revendues 3 fois plus chères. Et puis, il y a Désordre, cette série, 2 épisodes par soir à partir de ce soir sur Canal, également à revoir sur MyCanal, et ce pendant 4 lundis, puisqu'il y a 8 épisodes d'une demi-heure en tout. Merci Florence,
merci beaucoup.
À très vite. À demain pour la bande originale avec donc Novembre et Anaïs de Moustier et Cédric Jiménez. Et puis, ou Jiménez, tu dis
Jiménez.
Jiménez.